Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast 1905. Nous sommes le 25 octobre au moment où on enregistre cet épisode. Je suis évidemment en compagnie de Nico Pucha. Bonjour Nico, comment vas-tu ?
Écoute, ça va bien.
En ce 25 octobre ?
Ouais, tout va bien. Ouais. Là aujourd'hui, tout va bien.
Rien de particulier à signaler aujourd'hui ?
Non, et toi ?
Non, écoute, rien de particulier. Non, je pense que non.
Non, ok. Attends. Bon, passons à autre chose alors.
C'est un livre.
Ah mince, un livre. Ah, tiens donc.
Le livre, Champion, le récit de la saison historique du GSHC.
C'est dingue.
Ouais, c'est fou. Il est sorti aujourd'hui. Enfin, au moment où on enregistre. Ouais.
Et du coup, je suis allé voir sur le chemin là pour venir au studio Radio Lac. Je me suis arrêté chez Payot à la gare. Ça fait quand même bizarre. En plus, pour ceux qui vont aller à la Payot au Cornavin, c'est le premier livre que vous voyez en rentrant. Ouais. Vous pouvez pas ne pas le voir en fait. Ouais. Sauf si, quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui avait posé sa contrebasse devant. Ce qui fait que du coup, il était un petit peu obstrué, mais une fois que...
C'est un fribourgeois ou un Lannois, c'est pas possible.
Potentiellement. Mais une fois que tout ça a dégagé, c'est le premier livre que nous voyons en rentrant, et j'avoue que ça fait quand même vraiment, vraiment bizarre.
Ouais, on va pas...
Ça fait c'est bizarre dans le bon sens, évidemment.
Oui, évidemment, très fier et très ému de ce livre qui sort enfin en ce 25 octobre. On va pas plus en parler aujourd'hui, on vous a sorti un épisode complet hors série, disponible sur toutes les plateformes de streaming, comme d'habitude, sur de plus de 30 minutes, hein. Donc on en parle assez de ce livre, mais ça c'est sorti hier, mercredi. Aujourd'hui, on parle de quoi, Nico ?
Bah, du coup, on va revenir sur le match aussi d'hier.
Oui.
Donc avant-hier, quand vous écouterez. Voilà. Bah, oui, alors on se perd un petit peu des fois dans l'hier.
Avant-hier, le match de mardi
contre Lausanne, la victoire contre Lausanne. On va revenir sur les matchs précédents aussi, ce qui s'est bien ou un petit peu moins bien passé. Et puis, on va surtout commencer par parler des deux mouvements de joueurs qui ont eu lieu depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire l'arrivée de Tim Bernier, non plus la rumeur comme c'était le cas il y a deux semaines, et le départ de Henrik Appala.
Et le nouvel attaquant du Genève Servette aussi.
Et le nouvel attaquant du Genève Servette.
Oui, suspense. On en parle dans ce livre. D'ailleurs,
dans ce podcast.
D'ailleurs, la semaine dernière, tu nous dis qu'en fin d'épisode, on ne saura pas si Tim Bernier a signé ou pas. Finalement, on l'a su en tout début d'épisode. Enfin, c'était il y a deux semaines. Mais
Oui, absolument.
Voilà, non, mais je trouvais drôle. Moi, je voulais le souligner. Je voulais le rappeler. Oui.
Et puis en parlant de rappel, on en parlera aussi en toute fin d'épisode, mais pour ceux qui voudraient se procurer le livre, vous avez différents moyens de le faire, mais vous avez surtout la possibilité de le faire vendredi au Vernet. Et vous aurez même à ce moment-là la possibilité de vous faire dédicacer votre livre par l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre si vous aimez bien que l'un des deux.
Oui, c'est ça. Partie, j'ai pas aimé. Non, ouais. Qui l'a écrite ? Non, bah, je veux pas ta signature. Tire-toi effectivement la dédicace de 18h15 à 19h15 en direct dans le hall des Vernets. On a tout dit, vous connaissez le rite d'ailleurs, cette phrase est inscrite deux fois dans le livre. Installez-vous confortablement, c'est parti ! On va donc revenir sur une signature et une pas, une qu'on vous annonçait en tant que rumeur il y a deux semaines, et on a eu un coup de bol, on a quand même senti un peu le coup arriver, on n'est pas passé trop à côté du truc non plus il y a deux semaines, c'était évidemment Tim Bernier, on parlera aussi d'Henrik Appala qui n'a pas été prolongé, mais avant, Tim Bernier à Genève Servette, c'est quand même un gros coup, Genève Servette a changé de dimension, Nico. Cette fois, on peut en parler au présent, il a joué des matchs depuis, etc. Il a même marqué.
Il a marqué en Ligue des Champions et il a marqué en championnat hier. Donc là, on est mercredi, donc le match hier, c'est le match contre Lausanne.
Ouais.
Oui, c'est un gros coup, et oui, tu l'as dit, changement de dimension. Enfin, à l'époque, c'est le genre de joueur, il pouvait pas revenir. C'est peut-être l'équivalent, alors, je sais pas si la comparaison est parfaite, mais d'un Koukan quand il est revenu en Suisse. À Genève Servette, on en rêvait. Je sais que Max Orley rêvait d'Ine Koukan, mais c'était quasiment impossible de le voir revenir chez nous.
Parce que Zurich était sur le marché, parce que Bedavos, parce que tout le monde était
sur le
coup.
Et là, tout d'un coup, Tim Bernier, que tout le monde voyait, et à juste titre, à Zurich, hein, c'était pas compliqué de relier les points entre Tim Bernier et Zurich, il n'y en a pas beaucoup qui les séparaient les deux. Et tout d'un coup, probablement grâce à Marc Gauchy et à la surface financière du club depuis quelques années, Tim Bernier finit à Genève et il signe 4 ans. Donc c'est... Ouais. Et tu disais qu'on allait parler d'Appala après, je pense qu'on peut quasiment faire le lien entre les deux, parce que j'ai pas d'informations, mais on peut supposer que si tu engages Tim Bernier, t'as plus forcément les moyens derrière d'aller encore signer un contrat pour Appala jusqu'à la fin de saison.
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses.
Il y a probablement plusieurs raisons, mais je peux supposer que ça en fait partie.
Ouais, et pour Tim Bernier, il y a aussi le rôle de Marco Miranda et Roger Carrère, qui a été souligné par Marc Gauchy quand on lui a posé la question. Ouais. Il a dit, c'est les Zurichois de Genève qui font venir un autre Zurichois.
Après, s'ils nous font venir tous les Zurichois du genre dans ces prochaines années, bon, il y a Malguin, je crois qu'il a encore un contrat, c'est dommage, mais non.
Non, Malguin, j'aurais pas voulu le voir avec le maillot Genevois. Pour ce qu'il a fait à Lausanne, il peut rester à Zurich, ça va très bien comme ça. Oui, non.
Ouais,
c'est vraiment une star.
Oui.
Oui, toi, tu te bases sur la. Toi, t'es sur Hockey Manager, toi.
Non, mais enfin.
je vois ce que tu veux dire, évidemment, oui. Un Andrighetto, par contre, ça. Oui. Moins contre. Mais c'est vraiment. Voilà, on a rentré, on a changé de dimension. Il y a 10 ans, dire que des Suisses allemands demandaient à un autre Suisse allemand de venir à Genève, c'était inimaginable parce que déjà des Suisses allemands, il n'y en avait pas tant.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Et c'était Daniel Rubin. Donc voilà, là, c'est vraiment la mafia zurichoise qui est en train de s'installer à Genève, qui a fait venir un Zurichois. Et voilà, pour moi, ça veut dire que Genève Servette, on le savait avec le titre, etc. Mais il y a des choses, des fois, qui parlent encore plus. Et je trouve que des deux Suisses allemands qui disent à un Suisse allemand de venir à Genève, c'est au-delà du titre. Ça montre quand même que les infrastructures, malgré les Vernets, que les
Mais ça n'empêche pas ce genre de joueurs-là de venir. Donc c'est que c'est pas tant que ça un problème pour les joueurs. Ça ne nous a pas empêché d'être champions. Ça ne nous a jamais fait descendre en Ligue B, comme ça a été dit pendant tant d'années. Et non, le club a complètement changé de dimension, on le sait. Enfin, ouais. Et là,
c'est un
argument de plus qui nous fait dire que voilà, maintenant, Genève Servette fait partie du top 3-4 du championnat, probablement financièrement et en termes de prestige, on va dire, et de prestige actuellement. Ouais. C'est un des endroits où les joueurs ont envie de venir, probablement.
Ouais, et c'est chouette à dire. Hein. Franchement, quand on revient 20 ans en arrière, difficile d'imaginer ça comme ça. Enfin...
Donc amusez-vous, si vous avez du temps à perdre, ce que nous, on n'a jamais, donc on n'a évidemment jamais fait l'exercice que je vais vous proposer. Vous allez juste sur la liste prospects, puis vous allez voir les précédents alignements,
vous
précédents rosters.
Partez de 2007.
Ouais, même, partez de 2002.
Oui,
même 2000. Si alors 2002, il faut bien se rappeler que c'était la promotion.
2005.
Allez voir avec 2005. Allez voir avec quelle équipe Genève Servette a fait la finale en 2008 et en 2010.
Voilà.
Et comparer simplement. Et voilà, vous comprendrez pourquoi ça nous fait rire.
Et surtout, ce qui est cool avec Tim Berni, c'est qu'on parlait de lui comme un défenseur défensif. Alors, c'est le cas si on regarde ses statistiques en Amérique du Nord. Mais on a pu le voir notamment lors du match contre Lausanne, qui n'hésite pas à aller devant le but qui marque. C'est une leçon d'école, une triangulation, enfin, une carangulation. Ils sont quatre.
Un carré.
Un carré, oui. Oui, mais un triangle.
Une carrélation.
Donc voilà, c'est absolument magnifique. Et Tim Berni, il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. On rappelle qu'à Roma, il le marque en powerplay, hein, son but en plus. Il est aligné sur le powerplay de manière fixe, ce qui m'a un peu surpris, moi, mais finalement, ça a l'air de payer quand même. Donc voilà, Tim Berni, on parlait d'un défenseur défensif. C'est pas Vatanen, ça c'est sûr. Heureusement, mais c'est un gars qui va pas hésiter à prendre ses responsabilités, aller de l'avant et qui sait aussi faire de très belles passes, aller demander à Maninon et son but face à Zurich.
À Zurich, effectivement, non, mais on l'avait dit lors du précédent épisode que si Genève Servette pouvait signer Berni, fallait le faire. Bah, on comprend pourquoi.
Ouais.
Après quelques matchs, on a déjà compris. Enfin, c'est clairement un gros renfort et on l'avait dit aussi. Jacquemet, Morer sont sur la fin ou en tout cas déclinent gentiment. De par leur âge, mais on le voit, Jacquemet a quand même un peu plus de mal cette saison. C'est pas catastrophique, mais on sent quand même que ça devient un peu trop rapide.
En boxplay, il apporte encore beaucoup,
mais à 5-5, je sens quand même un petit peu dépassé, il joue beaucoup moins. Morer est surnuméraire depuis deux matchs.
Surnuméraire, comme tu nous avais dit dimanche.
Absolument.
Oui.
Mais j'ai pas osé l'ordre.
Non, mais je t'ai rendu crédit à plusieurs reprises à l'antenne déjà. Surnuméraire.
Donc voilà, c'est une signature sur l'avenir. Il a signé 4 ans. Alors après, il y a toujours un peu ce risque que chaque été, on nous dise qu'il va faire un camp en stage et puis que potentiellement il y reste. Oui, le risque existe, mais tu peux pas
ne pas le signer sous
prétexte que potentiellement il va repartir là-bas dans un ou deux ans. Parce que si c'est plus de 2 ans, il repartira jamais, je pense.
Ouais, on verra ça. De toute façon, il est encore jeune, hein, il a 23 ans, donc s'il fait une saison incroyable en Suisse.
Il faudrait qu'il soit ultra dominant en Suisse pour avoir une chance là-bas.
Il est parti pour l'être, en tout cas, parce que c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Mais on va surtout d'abord nous souhaiter qu'il nous amène plein de succès.
Effectivement, on en a parlé du coup de l'autre côté d'Apala, tu disais de la manne financière, c'est peut-être effectivement une des raisons, mais de l'autre, je me demande aussi si on n'avait pas un peu peur de, je veux pas dire perturber l'équilibre, mais du côté de Genève Servette, l'année dernière, il y avait, toute la saison, 5 étrangers, parce que Vatanen était blessé presque, mais il y a toujours eu 6 étrangers, ça a tourné comme ça, là aussi il y a eu 6 étrangers, et je pense que le rush de la CHL est passé, donc maintenant il y a toujours beaucoup de matchs qui arrivent. Mais je me demande s'il y a, j'ai pas de raison précise de la non-signature d'Apala qui a depuis été annoncée à Lausanne, mais le fait qu'il signe pas, je pense qu'il y avait aussi une question d'équilibre et de pas vouloir amener ce choix supplémentaire. Je pense qu'il y a assez de choix à faire aussi pour le coaching staff sans devoir rajouter le choix de qui sera surnuméraire en tant qu'étranger. C'est une marge de manœuvre en moins, mais voilà, moi ça, on le disait avant antenne, finalement ça me fait ni chaud ni froid.
Ouais, c'est ça, c'est pas.
Enfin, alors, ça nous fait ni chaud ni froid.
Ça nous fait ni chaud ni froid. Oui, il a été très bon pendant qu'il était là et ses stats le prouvent. Il a fait 9 matchs, 10 points. Donc, il y a 2 semaines, on militait pour le prolonger. Donc, on n'est pas tout d'un coup en 2 semaines de se dire il est nul, puis tant mieux qu'il soit parti. Mais quand j'ai appris qu'il signait à Lausanne, je me suis pas dit oh là, mon Dieu, catastrophe. C'est un très bon joueur, en tout cas, sur ce qu'on a vu. Il y a probablement des chances qu'il fasse aussi des points à Lausanne. Mais j'arrive pas non plus à. Je vais pas pleurer son départ non plus, plus que ça.
Enfin, mais surtout que depuis, quand il est arrivé, Genève Servette était dans une phase un peu compliquée où on peinait à avoir un vrai Genève Servette. Et mine de rien, depuis le dernier épisode du podcast, c'est une seule défaite pour Genève Servette et c'est dimanche à Zurich au terme de mon match.
Alors, le match. Au terme du meilleur match des cinq.
C'est ça, ouais, parce que le match contre Lausanne était quand même de loin pas le meilleur et. Objectivement, peut-être que Lausanne aurait dû mériter de gagner, mais une victoire contre Lausanne, c'est toujours agréable.
C'est toujours bon à prendre, qu'on la mérite ou pas.
Exactement. Mais voilà, Genève Servette va mieux. Genève Servette remonte au classement, est sixième. Voilà, Genève Servette est dans une meilleure phase. Et je pense qu'on s'est dit aussi, il n'y a pas de raison de paniquer. Genève Servette arrive à jouer sans Apala.
Ouais, puis il a peut-être aussi des garanties à Lausanne qu'il n'avait pas forcément à Genève au niveau du temps de jeu. À Lausanne, c'est un peu compliqué au niveau de leurs étrangers en ce moment. Alors qu'à Genève, tout le monde revient gentiment à son rythme et revient en forme. On l'a vu, Winnick qui égalise hier soir.
Ouais, dans sa position préférée.
Ouais, Maninin qui a enchaîné les buts là, le week-end passé, il a marqué 3 buts en 2 matchs.
La ligne Joris, Artikainen, Maninin, quand elle va commencer à vraiment se trouver sur la glace, ça va être doute. Parce que hier soir, il manquait quelques centimètres contre Lausanne.
Ouais, il manquait pas grand-chose. Et donc Artikainen revient aussi. Enfin, tout le monde revient gentiment. Joris marque des buts. Enfin, donc il n'y a plus forcément besoin. Le contingent offensif suisse est tel que tu peux te passer d'avoir un choix d'étranger supplémentaire.
Ouais.
Après, on dit ça alors qu'on fait jouer Mike Fulmin à l'aile d'une ligne
d'attaque. Alors j'ai entendu...
Mais qui se débrouille plus que bien.
Ouais, j'ai entendu une expression que j'ai adorée, c'est que Cadieux demande notamment à Fulmin de jouer comme une poule sans tête. C'est-à-dire de ne pas vraiment réfléchir, d'aller là où ça fait mal, et il le fait bien en fait, Fulmin.
Mais moi je trouve que... Ouais, il le fait. Si quelqu'un débarque, ne connaît pas forcément le club, il ne va pas forcément dire « lui, ce n'est pas un attaquant
». Ouais, c'est ça.
Je trouve pas que ça saute aux yeux. Alors oui, il va lui manquer plein de choses. Enfin, forcément.
Oui, bah, dimanche, quand il a choisi le tir en lucarne au premier poteau,
On s'est vite rendu compte.
Si
ça passe, c'est le but de l'année pour lui. Mais ça n'est pas passé. Donc non, c'est pas un attaquant de formation, mais je trouve qu'il il fait le boulot. En tout cas, il fait pas tâche dans cette ligne, je trouve.
Non, effectivement, et il apporte de l'énergie. C'est un défenseur, donc par définition, il a pas peur. On en discutait avec Jérôme Beuchat notamment hier soir après le match contre Lausanne. Mais par définition, il a pas peur d'aller devant le but adverse. Il a pas peur d'aller mettre des boîtes parce que c'est ce qu'il fait en tant que défenseur. Mais là, simplement, qu'il prend des tirs de ses propres coéquipiers plutôt que de contrer les tirs adverses. Et c'est peut-être aussi ce qu'arrive pas à apporter pour l'instant Guillaume Maillard. C'est cette énergie, c'est vraiment cette volonté de foncer tout droit, de mettre la pression et puis après de regarder comment ça se passe. Et mine de rien, cette ligne avec Pouliot, Bertaggia et Fulmin, c'est une belle horreur, parce que Bertaggia, c'est aussi un gars qui maintenant commence à trouver un rôle où il va gratter des pucks et il met de l'intensité. Fulmin aussi, et Pouliot à côté qui peut marquer des goals. C'est une ligne qui est assez complète, alors si on m'avait demandé d'établir des lignes en début de saison,
on aurait
à zéro moment j'aurais mis Pouliot Bertaggia, oui.
Éventuellement, mais pas Fulmin.
Mais pas avec Fulmin. Mais c'est une quatrième ligne, moi, qui me plaît.
Ouais, et puis surtout, ça pose la question de Guillaume Maillard. On en a parlé un peu à l'antenne lors du match de dimanche, pour ceux qui nous ont écoutés. Mais on essaie de se mettre à la position de Guillaume Maillard, tu te fais passer devant dans l'alignement par un défenseur de formation.
Ouais.
Donc c'est que manifestement, tu n'apportes pas, que ce soit en match ou à l'entraînement, ce que pour l'instant, en tout cas, le coaching staff demande. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème Guillaume Maillard, mais c'est les faits qui nous le prouvent. Il y a pour l'instant quelque chose qui ne fonctionne pas avec lui et qui fait qu'il se retrouve 13e attaquant, alors qu'il y a Mike Fulmin, dont ce n'est pas la position, se retrouve à lui prendre sa place.
C'est là qu'on retrouve aussi peut-être un Genève Servette qui équilibre un peu plus ses lignes. On a souvent entendu que les 4 lignes pouvaient marquer des buts, etc., ce qui était le cas. Guillaume Maillard, on l'a vu en début de saison, il arrive à avoir une production offensive, il arrive à marquer des goals, il arrive à avoir une alchimie dans une ligne. Mais si ce qu'on demande, c'est d'avoir de l'énergie et que ça, il n'arrive pas à l'apporter alors qu'il a une capacité offensive, Genève Servette retrouve une quatrième ligne qui va un peu plus gratter des pucks, ce qui était moins. Alors, l'année dernière, c'était quand même un peu le cas, mais moins que cette saison, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a un équilibre de ligne qui est en train de se recréer aussi du côté de Genève Servette. Et malheureusement, la force offensive sur une quatrième ligne, si on lui demande d'aller récupérer des pucks, c'est pas forcément ce qu'on veut.
Et puis malheureusement pour lui, les 3 premières lignes, c'est quand même compliqué de les bouger.
Ouais, là ça...
Surtout que maintenant, comme on l'a dit, ça commence à tourner un peu avec tout le monde. Je vois pas trop qui va pouvoir aller enlever dans une des 3 premières lignes pour mettre Guillaume Maillard.
Ouais. À moins d'une blessure.
À moins d'une blessure. Pour l'instant, il y a clairement pas de place ailleurs pour lui et il faut effectivement qu'il accepte ce rôle de quatrième ligne, de peut-être aller mettre de l'énergie, d'aller gratter, ce qui est peut-être pas forcément son jeu naturel, mais le meilleur exemple, on l'avait eu à l'interview, Elliot Berton nous en a parlé, de ce changement qu'il a connu. Alors les circonstances ne sont pas les mêmes, mais peut-être que Guillaume Maillard va aussi à un moment ou l'autre devoir comprendre que son rôle, en tout cas à Genève, il va être dans une quatrième ligne, et une quatrième ligne qui ne sera pas là pour marquer des buts, mais pour aller faire travailler les lignes en face.
Avec Pouliot au centre quand même.
Alors après voilà, tout est relatif.
Ouais, évidemment, Pouliot et Bertaggia.
Mais Pouliot, il sait tout faire en fait.
Ouais, c'est vrai qu'il est, il est polyvalent, c'est quelque chose de fou.
C'est quelque chose, voilà, et tu le mets sur n'importe quelle ligne, à l'aile, au centre, il sera bon.
Ouais, L'avoir signé en tant qu'étranger en se disant il aura son passeport, c'est quand même.
C'est un sacré pari, puis c'est un pari gagnant, clairement. Pour l'instant, c'est vrai.
Ouais, c'est absolument fou. Mais après, la question va se poser au retour d'Eliott Berton. Parce que Eliott Berton n'a pas forcément fait des mauvais matchs.
Non.
Justement, sur une ligne qui doit apporter de l'énergie. Eliott Berton est un joueur qui amène beaucoup d'énergie, on le sait. C'est quelqu'un qui va gratter des pucks. Et alors, le duel, je ne m'attendais pas à parler d'un duel Fonmin-Berton pour une place en quatrième ligne. Mais tant mieux qu'il y ait cette concurrence qui existe aussi. Dans ces rôles-là, finalement, parce que on imagine forcément qu'un Mike Fulmin en attaquant contre un Teemu Artikainen, le duel est gagné par Artikainen.
En principe,
mais voilà, au moins s'il y a aussi de la compétition, de la concurrence dans les lignes un peu en dessous, dans des rôles différents, ça peut que donner.
De toute façon, la concurrence a toujours fait que progresser les gens. Hein. Puis après, il y a ceux qui ne la supportent pas, puis qui eux s'effondrent en cours de route. Mais un joueur qui veut progresser, il y a que quand il est mis en concurrence que ça fonctionne.
Ouais.
Donc ça, c'est de toute façon positif. Puis après, il y a un changement aussi qui est apparu. Depuis hier soir, si je dis pas de bêtises, c'est qu'on a remis Artikainen et Manninen ensemble.
Oui.
Et ça fait un peu penser à Artikainen au Marc l'année passée. C'est au début de saison, ça fonctionne pas. Donc on vous punit, genre vous êtes des potes, mais c'est pas pour autant qu'on va vous faire jouer ensemble. On vous punit quelques matchs, le temps que vous retrouviez chacun vos sensations de votre côté. Et quand les deux retrouvent les sensations, pouf, on les remet ensemble.
Ouais,
si ça fonctionne aussi bien que Marc Artikainen. On va sur quelque chose de bien.
Ouais, en powerplay, on le voit aussi, les trois Finlandais. Donc Manninen qui donne un fil poula, qui donne Artikainen. Alors, ça n'a pas marché ni contre Zurich ni contre Lausanne. Ils ne l'ont pas tenté, celle-ci. Mais pourtant, on sait que Artikainen est un buteur.
Buteur, pas tenté.
Voilà, effectivement. Ça, c'est une passe décisive de jeu de mots.
C'est ça.
elle me fait plaisir. Non, mais on sait que les trois s'entendent bien. Effectivement, Manninen et Artikainen ont brillé ensemble avec l'équipe de Finlande. Ils ont joué ensemble aussi. Donc, c'est deux joueurs qui se connaissent bien. Je ne sais pas si c'est au même niveau que Marc et Artikainen, parce qu'ils avaient quand même l'air vraiment, vraiment potes en arrivant. Je ne sais pas.
Ouais, je connais pas la relation.
Je ne sais pas dans les relations d'amitié des joueurs. Mais effectivement, de les revoir ensemble, la ligne, c'était Joris, Manninen, Artikainen. C'est elle qui offre la victoire au Genève Servette grâce à grosso travail d'Artikainen et au très beau tir de Joris. Mais ouais, Manninen, il est intéressant. Il commence à se réveiller gentiment et ce qu'on nous a promis.
Ouais, et Yann Gadieu l'a dit clairement. Hein. Il l'a dit dans une interview qu'il a accordée au matin, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas dans un média en ligne. Et clairement, Kadieu a dit que Manninen n'était pas au niveau au début de saison et que là, il retrouve gentiment son niveau. Et c'est assez rare qu'un entraîneur dise clairement « ce joueur-là n'était pas bon et maintenant, il le redevient ». Donc, si lui le voit, c'est pas anodin. Et s'il le dit en plus, c'est que vraiment, il voit un changement et il voit la progression. Et Manninen, on l'avait jamais forcément beaucoup vu jouer avant qu'il arrive, mais il est arrivé avec une certaine réputation. On attendait beaucoup de lui. Je pense que ça va venir gentiment. Là, c'est en train de se mettre en place.
Ouais, mais comme tu l'as dit, hein, comme Marc Artikainen l'année dernière, on a mis du temps à les voir. Et par contre, quand ils ont commencé à vraiment être étincelants, là, c'était un rouleau compresseur et celui qui le pilote.
C'est ça, ouais, c'est un peu ça.
qui était avec et c'était inarrêtable. Donc effectivement, Sakari Manninen, je me réjouis de voir ce que ça va donner.
Puis n'oublions jamais non plus que Tomernes, sa première saison, on s'est tous demandé ce qu'il faisait là.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est peut-être un peu fort, mais on s'est tous dit, c'est pas du tout le défenseur qu'on nous avait vendu.
Ouais.
Quand il est parti, Henrik T.
Ok.
Là, il Henrik a joué trois matchs. Ouais. Henrik t'as pas là. Non, mais tout ça pour dire qu'un étranger qui débarque dans le championnat, il y en a qui arrivent à s'intégrer très vite.
Mm-hmm.
Et il y en a qui ça prend un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui clouer au pilori après 10 matchs. Manninen, je pense qu'on est en train de voir que ça va venir. Je me fais pas trop de soucis.
Ouais,
pour
lui. C'est un petit gabarit qui arrive dans un championnat qu'il connaît pas forcément. Enfin voilà, il y a aussi plein d'adaptations. Maintenant, il y a quelque chose de très très drôle en zone mixte. J'ai pas trouvé où elle sonna exactement. Mais en zone mixte, à la fin des matchs, on voit Vatanen, Manninen qui sortent avec le linge autour de la taille en slip et ils cherchent un sauna.
Ah voilà.
Voilà, ils cherchent le sauna et ils vont au sauna après les matchs. Comme quoi, finalement, est-ce que c'est pas ça la vie?
C'est ça la vie de hockeyeur, et voilà, c'est génial.
Ouais, Genève Servette qui, mine de rien, a connu une bonne série, je l'ai dit avant, hein, mais depuis notre dernier épisode, avec ses 4 victoires en 5 matchs. La seule défaite, c'est face à Zurich, et ce meilleur match qu'on avait commenté les deux d'ailleurs. Mais voilà, Genève Servette a même gagné à l'extérieur, à Berne.
Voilà, on l'avait dit que c'était un endroit, que c'était un des endroits peut-être où ça serait le mieux, entre guillemets, de gagner pour se mettre vraiment en confiance. C'était en prolongation alors qu'il y avait 0-2 à l'entame du troisième tiers. Hein.
Ouais.
Ça aurait pu être mieux, mais quand même, ce que j'ai bien aimé ce soir-là, c'est que Genève Servette mène rapidement 2-0, Berne revient à 2-2, mais Genève Servette ne s'effondre pas et va gagner en prolongation. Au début de saison, le match, je pense même que Genève Servette perdait avant le temps réglementaire.
Ouais.
Là, le fait de gagner en prolongation, ça veut dire que, ok, on est bien conscient que pas tout est encore parfait. Berne est revenu alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais par contre, derrière, on a la capacité de se relever et d'aller chercher une victoire à 2 points. Et ça, je pense que c'est un des changements, on va dire, notoires qu'on peut voir. C'est dans le, dans, pas dans l'état d'esprit, mais dans la confiance qui revient gentiment.
Et c'est ce que j'aime bien aussi, alors je l'ai répété souvent à ce micro, mais c'est quand les joueurs le disent. Et après le match contre Berne, il y a eu la victoire le lendemain contre Embrun Piotta dimanche soir, et j'avais pris Vincent Praplan à l'interview, et je lui demande bah, quel est ton bilan toi du week-end, et il dit bah, il y a eu du très bon, mais il y a eu du très mauvais aussi. Et ils sont... Alors évidemment que c'est des joueurs professionnels et qu'ils vont pas juste se satisfaire d'une victoire, ils vont être contents de gagner, et peut-être qu'il l'aurait pas dit après une défaite, mais il dit bah voilà, on devait faire 6 points sur ce week-end, on en fait que 5, on va regarder le positif, on a fait 5 points, on a gagné à l'extérieur, mais par contre dans la manière de faire, etc., il y a plein de choses qui vont pas, et Genève Servette n'est pas encore satisfait de son jeu. Et heureusement, parce que voilà, Genève Servette gagne des matchs, mais la manière commence à manquer un peu. Le résultat arrive, la manière commence à manquer.
Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu cette victoire contre Languedoc qui est quand même
oui.
pas spécialement belle non plus.
En celle
contre Lausanne, elle est, enfin, tu l'as dit, si Lausanne gagne, il n'y a pas scandale. Je pense ouais. que personne ne l'aurait crié au scandale en cas de défaite hier soir. Et finalement, c'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, c'est que le meilleur match disputé sur les 5 qui ont eu lieu depuis le dernier podcast, c'est la défaite à Zurich. Ouais. Le premier tiers de Genève Zurich, c'est quasiment le Genève Servette de l'année passée.
Ouais. Ouais,
ça n'a pas duré 3 tiers, mais le premier tiers de ce match-là.
Même Miranda l'a dit après. Il a dit c'est le premier match où on a vraiment réussi à,
Je crois que toujours dans l'interview que je citais avant de Cadieu, je crois qu'il dit aussi la même chose. Il confirme que c'est le meilleur match de l'équipe depuis le début de saison. Le problème, c'est qu'en face, c'est Zurich. Et puis que tu leur laisses deux chances et par 3 buts. Donc, bon, bah voilà. C'est...
Non, mais... Et André Guetto qui était.
André Guetto qui est en feu. Enfin, on la connaît, c'était que Zurichoise. En commentaire, on l'a dit plusieurs fois. On leur a dit attention. Enfin, on leur a dit. En commentant, on a dit.
Attention, parce qu'on est très loin de la glace. Hein.
Attention. Mais on l'a dit plusieurs fois. Il va pas falloir leur laisser grand-chose. Un powerplay, 4 secondes, boum. Enfin. Voilà,
André Guetto, il marque 3 buts. Hein. Alors, il y en a un qui est annulé, mais il en marque 3.
Il en marque 3. Ouais. Le deuxième, bah, voilà, il a un petit peu d'espace. Ça, il part quasiment tout seul, excentré. Bah, ça finit au fond. Face à ce genre de. Alors, tu me diras que face à Tim Boson, ça ne pardonne pas non plus. Parce que hier soir, Tim Boson, il est dans la même position qu'André Guetto, de l'autre côté. Mais ça
il ne le met pas au même endroit. Hein. André Guetto, il le croise, et Boson, c'est lucarne premier poteau.
C'est dommage parce que juste avant, c'est Arti Kanen qui fait passer le pote par-dessus le but de.
Il a tenté deux fois.
Oui.
Je pense que s'il tentait qu'une fois. En fait, il a tenté une fois. Il y a un joueur lausannois qui dit non, tu laisses le puck par terre. Il a tenté une deuxième fois. Genève a perdu le puck. Lausanne part en contre-attaque et goal.
Mais. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir tenté ça. Parce que sur le moment, tout le monde s'est dit ah, c'est génial.
Voilà.
Là, le problème, c'est 3 secondes derrière, tu prends un but. Oui, donc ça relève un peu de crédit à son geste. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce genre de
joueur. Mais on sait qu'il va le retenter.
Oui, mais je pense qu'il va le retenter plusieurs fois jusqu'au jour où ça va marcher.
Je pense qu'il le tente même vendredi face à Fribourg. Parce que la passe du patin, il me semble qu'il l'avait tenté un match avant. Il l'avait pas réussi et il l'a réussi contre Zurich après.
À surveiller.
Ouais, je pense que vendredi, il va falloir regarder derrière les buts quand Arti Kanen a le puck. J'ai cru qu'il allait faire un arrêt au début. Hein, parce qu'il a vraiment
j'y ai pensé, je me suis dit, est-ce qu'il va essayer ça? Mais non,
il a juste Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a voulu que ça tape la tête de Poulenov et que ça rentre? Parce qu'il y avait du monde
devant. Il y avait du monde devant, donc je pense qu'il cherchait quelqu'un devant le but. Ouais. Il cherchait vraiment la passe D, mais bon, ça a pas marché. Mais le jour où ça marche, par contre, on en reparlera.
Ouais, ça, comme tu l'as dit, si ça marquait, s'il y avait but sur ce coup-là, on criait au génie, manque de bol, il y a eu but, mais.
Pour Lausanne.
De l'autre côté, pour Lausanne. Justement, hein, maintenant, c'est Fribourg qui arrive. Ça va être aussi intéressant de voir comment Genève Servette a fait un bon match contre Zurich, qui est le deuxième du championnat et qui est une des grosses écuries de ce championnat. Fribourg est en tête. Fribourg marche un peu sur l'eau actuellement. Ça va être intéressant de voir comment les Genevois vont s'en sortir vendredi. Et je pense qu'on aura un bon indicatif aussi de comment Genève Servette se situe.
Indicateur.
Non, indicatif.
Indicatif.
C'est parce qu'il y a un plus 41.
C'est un plus 41.
Un bon indicateur, pardon, effectivement, de comment se situe Genève Servette. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Est-ce qu'il y en a encore Il y en a encore, c'est sûr. Mais quelle quantité? Je pense que c'est le match contre Fribourg qui va aussi permettre de déterminer un peu ça.
Ouais, d'autant plus qu'il va être un peu exacerbé par le sentiment de revanche. Il y en avait déjà un hier
mardi.
Contre Lausanne.
Ouais.
Apparemment, ce qu'on m'a soufflé à l'oreille, au creux de l'oreille hier soir, le sentiment de revanche encore plus fort vendredi. Là, clairement, ma source est sûre. Clairement, apparemment, dans le vestiaire, c'est le match de vendredi qui a été entouré. C'est le match contre Fribourg où ils veulent montrer que.
Ouais. Donc, le leader, etc.
Ouais. Puis la rivalité qui, apparemment, est en tout cas aux yeux des joueurs plus forte contre Fribourg que contre Lausanne.
Ok.
Donc il y a apparemment une vraie envie de montrer de quoi Genève Servette est capable vendredi. Donc,
en plus, c'est à domicile où Genève Servette reste invaincu.
Pour l'instant, invaincu, ça tient pas à grand chose, mais pour l'instant, Genève Servette est invaincu au Vernet.
Ouais, c'est passé à ça contre Languedoc.
Ouais, c'est vraiment pas passé loin hier soir, encore une fois, c'est pas passé très très loin non plus.
Non.
Voilà, Fribourg, ça sera un autre match, effectivement. Fribourg, tu l'as dit, ils sont en pleine forme en ce moment, il y a un peu tout qui leur rigole.
Ouais.
Bon, on sait que ça s'arrêtera en play-off, mais on verra si ça s'arrête
avant. La saison est encore longue.
La saison est encore longue. Non, mais voilà, ça va être un gros match et Fribourg va venir plein de confiance. Et c'est aussi un derby pour eux. Je pense qu'il y a la rivalité dans un sens elle existe aussi dans l'autre. Donc c'est un match qui promet beaucoup. Il y aura du monde. Il y aura même une séance de dédicace avant. Donc,
c'est fou ça.
Venez au Verdun.
Il n'y a aucune raison de ne pas venir.
Hein, non, mais, vraiment.
Fribourg, c'est une défaite sur les 10 derniers matchs.
Ouais, voilà. À Lugano.
À Lugano, il y a deux rencontres. Du coup, ouais. ils ont gagné hier soir.
Ouais, ils ont
un match fou contre Ambrì Piotta.
Ouais, ils ont souffert hier soir, mais ils ont fini par gagner. Mais voilà, c'est ce genre de match. On les a connus l'année passée, ces matchs où d'un coup, l'équipe souffre et puis elle finit quand même par en mettre 7 parce que tout rigole. Ouais. Bah c'est un peu ce que connaît Fribourg.
D'ailleurs, c'est très drôle, si on va regarder le classement, c'est l'exact inverse d'Ajoie. Fribourg, c'est tout vert, sauf l'avant-dernier point qui est rouge. Et Ajoie, c'est tout rouge, sauf l'avant-dernier point qui est vert.
Voilà. Merci pour cette statistique.
Moi, je me base sur les couleurs maintenant. Ouais, vous saurez qu'on est parti. C'est très pratique.
C'est très intéressant, en tout cas.
Oui, en radio aussi, c'est très pratique. On a fait le tour des sujets. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, Nico? Je crois qu'on a tout dit.
Oui, je pense qu'on a fait le tour. En plus, on va pas vous garder trop longtemps parce qu'on vous a déjà fait un épisode d'une demi-heure avant-hier. Oui. On vous en fait encore un de passer 20 minutes aujourd'hui.
Bon, gentiment 25 minutes.
25 minutes, voilà. Donc, ne nous étalons pas trop.
Non, effectivement, on se donne rendez-vous dans 2 semaines et n'oubliez pas, d'ici là, le livre Champion, le récit de la saison historique du Genève Servette qui est sorti hier au moment où vous écoutez cet épisode. Aujourd'hui, au moment où on l'enregistre, rien que de le dire, j'ai des frissons.
Ouais.
On en parle dans un épisode hors série, disponible également sur toutes les plateformes de podcast. Tu veux ajouter quelque chose ?
On est tout bon.
On est tout bon. Merci Nico, en tout cas, pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir.
Absolument. Et puis, on se revoit dans 2 semaines.
On se revoit dans 2 semaines. Nous, on se revoit demain, au Vernet. On se voit trop souvent, là.
C'est de la folie.
On se voit beaucoup trop. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le podcast 1905 est à retrouver sur notre page Instagram, 1905 Podcast, ainsi que sur toute votre plateforme, sur votre plateforme de streaming préférée. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Et bonne journée ou bonne soirée. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.
Je crois que t'as dit à la prochaine.